Aujourd'hui, je veux parler des risques d'amener quelqu'un à Jésus-Christ pour ensuite l'épouser. Je veux commencer aujourd'hui avec un principe plutôt simple. La force d'un arbre, ce ne trouve pas dans ses branches, mais dans ses racines. Permettez-moi d'abord de désamorcer un possible malentendu. Il ne s'agit pas ici d'épouser une personne qui est un jeune chrétien. Ce dont on parle, c'est de faire venir à Christ quelqu'un avec qui on vous désirait vous marier. Ce phénomène est une pratique répandue dans les églises aujourd'hui. Souvent, cette pratique est défendue par l'affirmation selon laquelle Dieu peut œuvrer dans toutes sortes de situations, comme si Dieu était la personne qui prend l'initiative. La réalité est que l'initiative est prise par l'un des partenaires et qu'ensuite nous cherchons l'approbation de Dieu, espérant qu'il collabore à notre propre projet. Amener une personne à Christ afin de l'épouser est trompeur. L'objectif caché est de se marier avec cette personne et non pas la conduire à accepter Christ dans sa vie. Alors qu'accepter Christ devrait être la priorité indispensable. Prenons un exemple simple pour expliquer cette contradiction. Imaginons que votre patron vous offre une promotion à votre travail avec une augmentation de salaire de 2000 euros par mois. Mais tout en vous disant que ça serait formidable que vous passiez deux dimanches par mois avec ses amis, parce que ça serait bon pour votre carrière. Si vous acceptez de passer deux dimanches par mois avec votre patron et ses amis, au lieu de passer ce temps avec votre famille, ce n'est pas parce que vous aimiez votre patron plus que votre famille. C'est parce que vous acceptez de vous plier aux conditions posées pour gagner 2000 euros de plus chaque mois. Voyez-vous, le futur partenaire non converti, considéré comme un cadeau aux yeux de l'autre, est assorti d'une condition inviolable. Il ou elle doit devenir ami avec Dieu. Le but ultime ici, c'est le partenaire et non Dieu. Beaucoup de célibataires qui amènent quelqu'un à Christ parce qu'ils veulent l'épouser, croient que la situation est obtenir que le futur partenaire soit baptisé et bingo, l'affaire est faite. Si quelqu'un amène à Christ un futur partenaire, l'objectif est incontestablement qu'il ou elle puisse devenir un partenaire chrétien. En d'autres termes, il y a une anguille sur roche, sans même parler d'un conflit d'intérêts. Amener une personne à Jésus-Christ doit être avant tout dans l'intérêt de la personne qui sera amenée à Christ. Quand il y a un conflit d'intérêts, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. Et quand les sentiments sont impliqués, tous les paramètres de l'objectivité pourraient être perdus. Un jeu de fausses indulgences et de manipulations successives se met en place pour créer la relation. Les signes qui doivent alarmer les chrétiens sont jetés aux orties et les conseils d'autres sont repoussés. La dimension humaine domine dans le jeu, c'est l'âme qui en devient le gardien. Cette forme subtile de manipulation tacite en effet un péché de sorcellerie. Lorsque la libre volonté de quelqu'un est manipulée de telle façon que cette personne ne ferait pas le même choix si les conditions étaient différentes, on peut parler de sorcellerie. Ce que font les sorcières, jeter un sort pour outrepasser la liberté et la volonté d'une autre personne afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Nous lisons dans la Bible l'histoire de Salomon. Il a été pris dans un conflit d'intérêts au cœur de même de ses mariages. La paix politique a été le prétexte donné afin d'épouser des femmes non-juives. Tout comme se conformer à leur culture a été le prétexte de l'installation du culte des idoles. Salomon a été pris par un esprit de sorcellerie. Si les circonstances avaient été différentes, il n'aurait probablement pas permis le culte des idoles. Cette attitude va totalement à l'encontre de la nature d'un chrétien. L'égocentrique, je te veux pour moi, est entièrement égoïste. Or, la visée d'un mariage spirituel est de transcender cet égo. Il y a un risque évident que le non-chrétien se conforme à des conditions de mariage, mais une fois marié, il se délie de son engagement envers Dieu. Toutes les deux ont bien ce qu'ils veulent, mais Dieu n'est pas la raison du mariage, il est juste un prétexte. Beaucoup de célibataires pratiquent qu'on appelle aujourd'hui évangéliser en fréquentant l'autre. pensant fermement que Dieu est capable de convertir n'importe qui et n'importe comment. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable de convertir, mais de savoir pourquoi dois-je le forcer à opérer cette conversion, que ce soit la volonté ou non, pour le simple désir de me marier. Ces chrétiens là commencent à mettre la pression sur l'autre afin qu'il devienne chrétien, mais à un rythme qui est beaucoup trop rapide. Il est un principe spirituel et naturel que nous devons garder à l'esprit. Tout ce qui grandit trop vite s'affaiblira tout aussi vite. Si la personne qui vient à Christ ne se donne pas le temps de développer ses racines spirituelles, l'accélération de cette conversion va générer un chrétien qui ne serait pas en mesure de faire face à une crise spirituelle, en particulier au sein du mariage. Avouons-le, un chrétien qui épouse quelqu'un qui vient tout juste de se convertir va se marier avec un enfant spirituel. Si nous n'acceptons pas le mariage entre adultes et enfants, pourquoi serait-il possible à un chrétien d'adulte d'épouser un enfant de la foi? Y aura-t-il une différence? Le chrétien n'est-il pas amené à discerner par l'esprit? Bien sûr, il y a des exceptions, mais quand vous êtes amoureux, vous voulez croire que vous êtes l'exception. Vous devriez vous poser la question, êtes-vous sûr à 100% que vous êtes l'exception et que votre mariage sera béni? Pour chaque histoire qui finit bien, il y a 10 histoires qui échouent. Posez-vous la question, votre mariage est-il un pari? Êtes-vous prête à faire pression sur votre partenaire pour qu'il devienne chrétien en moins de temps qu'il ne faut pour le dire? Préférez-vous un partenaire avec des racines spirituelles minuscules simplement pour obtenir ce que vous désirez? Quel est votre but ultime? Votre désir ou Dieu? Dans Galates 6, 7, Paul dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui tente de tromper Dieu se trompe inévitablement lui-même. » Le fruit de votre mariage commence avec le semi. Dès le début, vous devrez cultiver votre mariage comme une fleur. Si vous lui mettez beaucoup d'engrais parce que vous voulez la faire grandir plus vite, la fleur va brûler. Si vous voulez faire pousser un arbre trop vite, il va grandir et se développer, mais les racines ne poussent pas si vite. À la première tempête, l'arbre va tomber. Assurez-vous que votre mariage puisse faire face aux tempêtes de la vie.